On va lire dans le psaume 51. Finalement. Je voulais qu'on lise dans 2 Samuel 11. Mais on va lire le psaume 51. 2 Samuel 11, c'est le récit de l'histoire malheureuse dans laquelle David va sombrer et qui va l'amener à l'adultère avec Bathsheba, au meurtre de Uri. Voilà. Et ensuite, Dieu va lui parler au travers du prophète Nathan. Est-ce que ce récit, d'abord, est clair dans la mémoire pour tout le monde, sinon on le lit. On le lit plutôt ? Oui, on le lit. Alors, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Et ensuite, psaume 51. Vous avez froid ou même un peu plus fort ? S'il est réglé à 21, mais il fait que 19 en bas au niveau des chaises. Peut-être que inerte, ça fait un peu juste. Enfin, vous voyez, Marcel. 2 Samuel 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors, juste un mot d'explication, les toitures ne sont pas du tout dans ces régions comme les nôtres aujourd'hui. Donc c'est sur la terrasse, le toit plat, elle prend son bain et s'il est capable de voir la figure, ça veut dire que la distance était quand même... assez réduite. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Donc on lui explique bien qu'elle est mariée. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Pardon?
Ça a été rapide.
Oui, c'est un peu radical. Oui, après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison, ce qui veut bien montrer aussi que autant pour lui que pour elle, il y avait une certaine conscience de la faute. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte ». Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. C'est une expression de l'époque, prends tes aises et vis chez toi, quoi. Et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David. Et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne pour manger et boire et pour coucher. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain et je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Uri. Vous imaginez quelle manière c'est fomenté. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat, et retirez-vous de lui. » afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qui s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre ? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut des murailles ? Qui as-tu Abimelech, fils de Jérubéchet ? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin ? Et n'en est-il pas mort à Thébets ? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille ? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras, Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, et il l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, et pour avoir été sans pitié. » Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, et je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu agis en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis d'Israël, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » C'est dur. Mais tout est dur. Ce que David a fait est innommable. Le petit détail qui est horrifiant, c'est qu'il fait porter la lettre à Uri. Il faut le penser. Et pourtant, la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu, ce qui, juste une parenthèse, ce qui montre que on peut être vrai devant Dieu à des moments de notre vie, mais quand on ne veille pas, on redevient ce qu'on est sans Dieu, voire même contre Dieu. Voilà. Et Dieu lui envoie Nathan, et Nathan lui parle. Et là, il y a une démarche spirituelle qu'il faut regarder comme étant spirituelle, parce que humainement parlant, je ne sais pas s'il y en a un qui aurait parlé à David comme Nathan lui a parlé. Humainement parlant, ce n'est pas comme ça qu'on va parler à David. On va lui parler autrement. Voilà. Mais Dieu emploie un langage spirituel. La particularité du langage spirituel, c'est qu'il n'est jamais violent. Il est précis, il est net, il est ferme. Il n'est pas violent. Donc ça, c'est à nous de le garder un petit peu sous le coude. Quand nous parlons spirituellement à quelqu'un, ça ne sera jamais violent. Parce que ça ne peut pas être violent. Et quand Dieu parle à quelqu'un au travers d'un don spirituel, le don spirituel n'a jamais de violence en lui-même. Ce qui permet de juger. Comment on juge un don spirituel? Si ça vient de Dieu, tout le monde se dit « Je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit, ça vient de Dieu. » Non. Dieu nous a dit qu'une parole qui vient de lui, elle exhorte, elle édifie, elle console. Et en termes, il n'y a pas de violence en elle. Par contre, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà. Et David, Nathan parle à David. Et on réalise que si on fait confiance à Dieu, c'est pas la peine d'être violent. David a compris. C'est pas parce qu'on va être violent que la personne va plus comprendre. Hein. C'est nous qui allons nous lâcher. On va pas se maîtriser humainement parlant, on lâche les chevaux. Devant une situation pareille, je suis sûr que les mots et les décibels sont à un certain degré. Et pourtant, il raconte une histoire avec une brebis qui est une histoire magnifique. Essayez d'imaginer la scène, cette petite brebis dans la maison. J'ai perdu la page, enfin j'ai laissé la page. Le bois. Oui, c'est ça. Oui. Elle mange son pain, boit sa coupe, dort sur son sein, il la regarde comme sa fille. C'est une histoire magnifique. Et Dieu est en train de raconter à David une histoire magnifique pour lui faire prendre conscience d'une chose horrifiante qu'il a faite. Le décalage entre ce que Dieu dit et ce qui a été fait, il ne faut pas le regarder. Il faut regarder que c'est ce qu'il faut dire. Voilà. Quand le Seigneur sur la croix parle à l'humanité pour lui dire qu'il l'aime, il pourrait dire autre chose à l'humanité, mais ça viendra. Le jour du jugement dernier, ça va tomber. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, les pendules seront remises à l'heure pour tout le monde. Voilà. Et la perdition éternelle, aujourd'hui ce sont des mots, ça sera une réalité qui sera terrible, parce que ce sera éternel. Ça ne va pas être dur de 3 jours, hein. C'est à jamais. Donc quand ça tombe avec Dieu, ça tombe. Mais ne faisons pas tomber la foudre avant l'heure. Pour le moment, c'est le temps de parler. Alors même si quelqu'un est dans une situation horrible, on ne va pas lui parler autrement que comme Dieu parle. Et si on le fait, ça va être efficace. Donc si on fait confiance à Dieu, il ne faut pas se faire du souci, l'efficacité sera à la clé. Voilà. Et David, quand il reçoit cette parole, ça le fait réagir. Et quand Nathan dit « Voilà maintenant ce qui va se passer dans ta maison », David ne peut rien dire, parce que ce qu'il a fait est innommable. Voilà. Alors on va dire « Oui, mais Dieu est injuste, il fait mourir un enfant ». Si on regarde que cet aspect-là, c'est sûr que faire mourir un enfant, dans la circonstance, l'enfant est mort parce que Dieu l'a décidé. Voilà. C'est terrible. Mais ça ne veut pas dire que tous les enfants qui meurent, c'est parce que Dieu l'a décidé. Dans cette circonstance-là, oui, ça s'est passé comme ça. Voilà. Je me dis que peut-être il valait mieux que cet enfant ne voit pas certaines choses. Peut-être qu'en faisant cela, aussi difficile que ça puisse paraître, Dieu a épargné cet enfant. Parce que quand on regarde ce qui va se passer dans la fratrie des enfants de David, ça va être compliqué. Plus que compliqué. Peut-être que Dieu a épargné cet enfant, mais bon, ça on le saura plus tard. Dans tous les cas, on arrive au psaume 51. Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc c'est clair. C'est la suite du récit. Et c'est la prière de David à Dieu. Et il faut la relier à la parole que Nathan lui a donnée. Vous allez voir l'effet que ça a fait. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ce n'est pas une excuse, c'est un constat. Il ne s'excuse pas d'être né dans un monde de péché, en disant, ben voilà, je ne suis pas meilleur que les autres. Non, il dit, voilà, je suis né dans l'iniquité, purifie-moi. Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est pas qu'il jette un anathème sur elle, c'est que c'est la réalité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Sous-entendu, si tu ne le fais pas, ça n'arrivera jamais. La preuve, c'est ce que je suis devenu après avoir fait des choses extraordinaires pour toi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi avec et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce qu'il sent que c'est allé loin et que Dieu pourrait retirer de lui son esprit. Et il sait ce que ça veut dire, parce qu'il l'a vu chez Saül. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Là aussi c'est dur, hein? Parce que les mots ont toute leur importance. Alors, je voudrais, sans aller trop loin, que le message de l'étude biblique ce soir puisse s'appuyer comme ça sur les fautes dans une vie, voire dans notre vie, qui sont condamnables sans appel. Parfois, on a des excuses et des circonstances atténuantes, mais parfois, on est coupable de A jusqu'à Z. Pire, on connaît Dieu. Que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu fasse cela, c'est condamnable. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, c'est comme certaines catégories professionnelles, elles sont jugées plus sévèrement que d'autres. Voilà. Parce qu'elles sont à un niveau où on attend d'elles un niveau d'exemplarité. Voilà. Et quand elles chutent, quand elles fautent, la faute est peut-être la même, mais là, c'est condamné encore plus. Un magistrat, une profession de santé ou autre, qui abuse de quelqu'un. Eh bien, comment s'en sortir quand ce serait le cas? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça nous est peut-être arrivé, je ne souhaite pas que ça nous arrive. Mais si ça nous arrivait, si ça nous était arrivé et que ça nous arrive, eh bien, quand Dieu parle, il faut entendre ce qu'il dit. Et même si on n'a pas été capable de l'entendre la veille, parce que là, la veille, la voix de Dieu et David est une coupure, hein, totale. Ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas été capable de l'entendre la veille et qu'on a fait ce qu'on ne devait pas faire, que le lendemain, on n'est pas capable de l'entendre. Dieu continue de parler. Ça surprend, ça nous bouleverse, mais c'est heureusement qu'il continue de parler, parce que sinon, nous, on n'a aucun moyen d'être rattrapé, de se ressaisir. Et David entend cette voix, il entend cette parole qui n'a pas besoin d'être violente, il faut qu'elle soit précise, c'est tout. Et il va crier au secours à Dieu. Et voilà comment quelqu'un qui serait en faute, sans appel, condamnable, pire que les autres ou plus que les autres, s'il crie au secours, aie pitié de moi dans ta bonté. C'est un appel au secours. Il ne prétend rien, il ne se cache derrière rien. Et voilà, purifie-moi. Ce que j'ai fait, c'est condamnable et tu seras juste dans ta sentence. Je ne discute même pas. Je te demande pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, comme dira le fils prodigue. Voilà. Et il demande un acte de pitié. Et il faut demander à Dieu un acte de pitié, parce que le pardon ne se mérite pas. D'une manière ou d'une autre, je fais la démarche, alors Seigneur, pardonne-moi. Non, je fais la démarche, Seigneur, je ne sais pas si c'est pardonnable. Je te demande pardon. Et Dieu va intervenir. Parce que ce qu'on a fait, c'est écrit là-haut. Et ça ne peut pas rester là-haut. D'ailleurs, ça ne s'est pas écrit que là-haut. Dans le cœur de Bathsheba, ça s'est écrit. Le peuple, apparemment, on sait, mais c'est la loi du silence. Hein. Tout le monde voit Uri. Vous imaginez, ça, on pourrait faire un film avec cette affaire-là. David qui l'invite, qui le fait boire, la deuxième fois, pour se dire, bon, il va aller chez lui, non, il dort toujours là. Et personne ne pipe mot. Parce que ça n'est pas passé inaperçu. Hein. David avec Bathsheba, à mon avis, ça a dû discuter dans le secteur. Hein. Personne ne pipe mot. C'est horrible. Ça s'est écrit partout. Il faut que ce soit effacé. Il faut que ce soit jugé. Il faut que ce soit condamné. Et c'est pour cela que Jésus va donner sa vie à la croix. Parce que le péché que j'ai fait, la condamnation que je mérite, il faut qu'elle tombe. La seule chose extraordinaire, c'est que par la grâce de Dieu, elle ne va pas tomber sur moi. Mais elle va tomber sur l'innocent. Elle va tomber sur le Jésus à la croix. Et c'est peut-être une explication prophétique qui fait que le Fils meurt. Le Fils meurt. Parce que tout le monde se dit là, mais non ! Lui, c'est l'innocent. Celui qui meurt, c'est pas lui qui devrait mourir. Ah oui, oui, c'est exactement ça, la croix. C'est le Fils de Dieu qui meurt à la croix. Et là, il y a une dimension prophétique qui nous bouscule tous, parce qu'elle bouscule Dieu. Voilà ce qu'il est obligé de faire pour nous sauver, parce qu'on va crier au secours après qu'il nous ait parlé. Et là, il va falloir confesser. Alors souvent, on a présenté avec la confession... Le confessionnal, na ou nal?
Nal.
J'ai jamais été, moi, alors.
Oui, moi non plus, mais confessionnal.
Qui y a été? Ah, alors on dit comment? Nal.
Oui.
Confessionnal, d'accord. Coupé, hein, ça fait ça. Donc, on a souvent plaisanté avec le confessionnal, et même dans les films. Néanmoins, la confession de nos péchés, c'est une vérité profonde. Et ce n'est pas un homme au travers...
Continuez.
C'est pas un homme au travers d'une grille qu'il faut confesser nos péchés, mais à Dieu. Et si nous les confessons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les effacer et les pardonner. Ils doivent être effacés parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et avant de devenir le temple de l'Esprit, il était certainement souillé. Au niveau des pensées, au niveau des actes, même au niveau des écrits, il écrit la lettre, il la donne à Uri. Je ne sais pas, je crois qu'on a tous des points faibles, mais celui-là, quand même, c'est une faille. Hein. Vous imaginez écrire la lettre? Avoir fait ce qu'il a fait, c'est une chose. Mais écrire la lettre d'exécution de cet innocent et la lui donner en main propre en disant tu l'ouvres pas, tu la goûtes. C'est bon. Il faut le faire, quoi. Donc il faut qu'il y ait une purification en nous. Sans quoi on ne peut pas devenir le temple de l'Esprit. Parce qu'aussi surprenant et paradoxal que ça puisse paraître, dans cet homme, Dieu veut mettre son esprit qui est saint. Alors comment on peut mettre l'Esprit Saint dans un cœur et dans un corps qui ne l'est pas? Il va falloir effacer, il va falloir purifier, il va falloir sanctifier. Sinon, s'il n'y a pas un nettoyage, un vrai, profond, il ne peut pas y avoir un remplissage de choses pures et de choses belles. Moi, j'avais noté que la faute n'est pas l'effet du hasard. Et je ne pense pas, d'une manière générale, hein, être prudent et puis surtout pas affirmatif et prétentieux, on ne sait pas tout. Mais en général, quand quelqu'un faute, c'est pas arrivé du jour au lendemain sans... À mon avis, il y a une faille. Et cette faille, si elle n'est pas comblée, jour ou l'autre, elle va s'ouvrir, se réouvrir. Et là, plouf, on y tombe dedans. Et on est surpris. Et ça, je pense que c'est humain. Parce qu'un chrétien, c'est aussi un humain. On est surpris de voir des hommes et des femmes, un jour, faire ce qu'ils font. Nous, on ne l'a pas vu. Mais quand des enquêtes sont menées, de voisinage et de tout ce que vous voulez, on se dit, tiens, il y avait peut-être des signes annonciateurs qui étaient discrets, qui étaient cachés, mais néanmoins qui existaient. Voilà. Je pense que d'une manière générale, une faute grave n'est pas l'effet du hasard. Il peut y avoir la circonstance qui le déclenche, mais c'est parce que derrière, il y a une faille. Or, Dieu veut combler les failles dans nos vies, parce que sinon, on va y tomber nous-mêmes dedans. Y faire tomber les autres. Prendre conscience de ce qu'on est, ça fait partie de la confession. Et il le dit. Il le dit. Dans sa prière, il le dit. Je reconnais, lave-moi. Je suis né dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais-la pénétrer au-dedans de moi, et que les failles soient comblées. Voilà. Et un chrétien qui est vraiment né de nouveau, c'est quelqu'un qui a laissé à l'Esprit de Dieu la possibilité. Possibilité de combler les failles. Combler les failles. Et ça veut dire que celui qui a péché ne péchera plus. Voilà. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ça veut dire que des choses sont réglées. Et à partir de là, une restauration va s'instaurer. Je vais m'arrêter là. C'est que David, que Dieu condamne son péché, que Dieu pardonne son péché, c'est une chose. Mais maintenant, il faut continuer. Comment va-t-il se tenir devant ses propres enfants? Comment va-t-il se tenir devant le peuple? Comment va-t-il se tenir devant Bathsheba? Comment va-t-il pouvoir écrire des psaumes? Comment va-t-il pouvoir un jour arriver à ce que Dieu dise de lui un homme selon mon cœur? S'il n'est pas restauré, il continue à minima. Je suis pardonné, mon péché a été condamné, mais moi, c'est fini, je suis sur mon cou, je ne bouge plus. Même pas le petit doigt, c'est fini. Non. Et c'est ça la grâce de Dieu, la particularité, c'est que celui qui aurait péché, comme David a péché, sans aucune circonstance atténuante, ben Dieu ne veut pas le laisser dans un état de simplement pardonner. Le clan des pardonnés. Mais inutilisable. Estimez-vous heureux d'être pardonné et que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et à partir de là, sauvé à minima. Non. Saul de Tarse, Dieu veut faire de lui l'apôtre Paul. Il va falloir le restaurer pour qu'il puisse regarder les familles qu'il a persécutées. Pour qu'il puisse prêcher aux familles qu'il a persécutées, celles qu'il a arrachées des maisons, parce que le terme, c'est celui-là. Hein. Donc ça devait se faire, c'était pas dans la dentelle. La famille d'Étienne, il a présidé à l'exécution d'Étienne par lapidation. Il y a des meurtres qui sont difficiles à voir et à concevoir, mais à coup de pierre. Alors, c'est sûr que c'est pas nos pratiques, alors nous on va peut-être s'insurger plus que là où c'est la pratique, mais certain que même si c'est la pratique courante, ce soit facile à vivre et à concevoir. Essayez de vous mettre à la place de la famille d'Étienne. Donc ça s'est fait à Jérusalem. Maintenant l'apôtre Paul vient à Jérusalem et il prêche à l'église de Jérusalem. Moi je suis sûr qu'il y a des prédications, elle passe pas, hein. Nous, parfois, suivant qui c'est qui prêche, on va ou on va pas, mais on est des rigolos, ça se dit pas, par rapport à ce cas de figure. Là, il y a toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Alors, je ne sais pas s'ils sont allés ou pas, mais en tous les cas, Paul, s'il les voit dans les rangs, s'il n'est pas restauré, il arrive de vous passer. Donc il faut être restauré. Et alors là, vous l'appliquez à tous les domaines de la vie en partant de la vie perso, de la vie de couple, de la vie de famille. Si la faute qui est impardonnable, inconcevable, inimaginable de la part de telle personne est faite, et que Dieu la pardonne, bon, maintenant il faut continuer. Voilà. Et pour continuer, il faut la restauration, c'est incontournable. C'est pour cela qu'il va écrire. Enfin, c'est peut-être pour cela que c'est lui qui va écrire le psaume 23. Il restaure mon âme. Alors, je n'ai pas regardé, je ne sais pas à quel moment, parce que nous, on a les psaumes dans l'ordre des chiffres. Est-ce que le 23 a vraiment été écrit avant le 51? Je ne sais pas. Ça faisait peut-être la peine de le chercher, de le découvrir, parce que si jamais il a été écrit après, ça change tout, sur la lecture du psaume 23. Voilà. Mais la volonté de Dieu n'a pas changé à son égard. Dieu a voulu faire de lui un homme selon le cœur de Dieu. Bon ben, malgré ce qui s'est passé, Dieu va quand même y arriver. Et c'est le point sur lequel je voudrais terminer. C'est que ce que j'ai fait ne remet pas en question le plan de Dieu dans ma vie. Ça le complique. Ça, c'est sûr. Ça complique tout même. Mais ça ne le remet pas en question. Et si je permets à Dieu de restaurer mon âme, le plan de Dieu se réalisera dans ma vie. Et quand on reprend, je ne voudrais pas être trop long, toutes les paroles de David dans sa prière, quand il dit détourne, quand on regarde mes péchés, c'est-à-dire qu'ils vont se poser sur la croix. Voilà. Parce que c'est là qu'aura lieu le sacrifice. Il va dire efface, que le sang de l'innocent qui va pouvoir effacer. Quand il va dire crée en moi un cœur pur, c'est la nouvelle naissance. Il ne sait pas. Mais quand une prière crie à Dieu et fait sincèrement, il peut être inspiré. Parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous pousse à dire ce qu'on est en train de dire, parce que l'esprit lui-même est en train d'être éteint dans cette vie. Et l'esprit souffre de cette extinction des feux. Du feu de l'esprit. Et l'esprit de Dieu pousse David à dire détourne ton regard, crée un cœur pur, que l'esprit de Dieu puisse revenir. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et moi je sens que, je pressens en tout cas que l'esprit est avec David dans la prière. Je n'oserais pas dire que l'esprit inspire David, mais peut-être que oui. L'esprit est avec David. Parce que parfois, il nous aide quand on ne sait pas ce qu'il faut demander, par des soupirs inexprimables. Et David dira, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et pour moi, c'est la preuve de la restauration. Celui qui est capable d'aller dire à quelqu'un ce que tu fais est mal après l'avoir fait lui-même. Soit il est à l'ouest, il est inconscient, soit il est transformé. Il est conscient des choses, de la grâce qui lui a été faite. Et du coup, quand il va dire à quelqu'un qui est dans le péché, c'est pas bien ce que tu fais, il va pas le juger. Parce qu'il peut pas le juger. Lui, il a été jugé et gracié. Il peut pas aller juger l'autre, sinon c'est fini. Voilà. Et à partir de là, ça va se terminer. Et c'est là où on voit la vraie restauration. C'est quand celui qui s'est adressé à Dieu de cette manière arrive à louer Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et parfois, on a tellement été loin dans notre faute qu'on n'en arrive même plus à louer Dieu. On n'ose même pas élever sa voix. Parce que donc, même si les autres sont au courant de rien, moi je le suis. Voilà. Et rien que ça, ça fait que je me tais. Parce que j'estime que je ne peux pas élever ma voix vers Dieu. Or, le Seigneur, quand il a pardonné. Parce qu'il a payé le prix. Donc, à partir de là, rien ne doit venir empêcher la louange qui s'élève vers Dieu. Et je me dis qu'elle doit avoir un autre sens, cette louange-là, une autre dimension, presque une autre saveur, de l'émetteur jusqu'au celui qui reçoit. Voilà. Donc il y a de l'espoir, même dans les situations les plus terribles. Mais il faut payer le prix, et c'est le Seigneur qui le paye.